Bonjour Jean-Pierre Orfeuille.
Bonjour.
La mobilité des individus a-t-elle évolué depuis le début des années 2000 en termes de mode de transport utilisé, de vitesse de déplacement ou d'imaginaire associé à la mobilité?
Alors, si vous cherchez une réponse en termes, je dirais, global et statistiques, la réponse est plutôt non. La mobilité a peu changé depuis une quinzaine d'années. Et c'est déjà un changement, si j'ose dire, parce qu'elle n'augmente plus au point où elle, au rythme où elle augmentait dans les années précédentes. Donc, cette stabilité globale est d'une certaine façon un changement et qui est aussi lié au fait que, notamment dans les villes et dans leur partie centrale, les vitesses praticables n'augmentent plus. Donc, on a une contrainte de ce point de vue-là. Alors maintenant, ce qu'on appelle la mobilité, c'est les possibilités de se déplacer, c'est-à-dire les modes en particulier que je peux utiliser, là il y a indiscutablement de vrais, de grands changements. Un mode très traditionnel, hein, qui existe depuis très, très longtemps, le vélo a retrouvé un peu des couleurs. Il y a des vélos électriques qui permettraient aujourd'hui, théoriquement, de faire pas mal des déplacements qu'on peut faire en automobile. Il y a tout ce qu'on appelle les supports de micro-mobilité, hein, et donc actuellement les trottinettes, hein, sont l'exemple. Et puis, sur un autre plan, il y a tout ce qui permet de la mobilité à plus longue distance, d'exister en dehors du transport en commun classique. Je parle du covoiturage à travers notamment BlaBlaCar, mais aussi de ce qu'on appelle les cars Macron, vous voyez, c'est qui, au fond, ont réussi à adresser une demande qui était plutôt pas très bien traitée par les opérateurs classiques, qui est une demande de mobilité à bas prix, y compris si c'est parfois un petit peu plus long, pas toujours d'ailleurs, hein, que l'utilisation d'un train. Donc en fait, la situation de la mobilité aujourd'hui, je dirais, c'est que l'éventail des possibles s'est considérablement agrandi. Et en même temps, eh bien, les pratiques restent assez proches de ce qu'elles étaient en 2000, avec une automobile qui reste dominante, des transports publics qui restent un petit peu dans leur niche, hein, habituelle. Et donc, il y a des possibles augmentés et une mobilité qui est relativement stable.
Donc malgré cette stabilité, est-ce qu'il y a encore des populations qui ont plus de difficultés que les autres à accéder aux emplois et aux services du quotidien ?
Oui, alors des populations en difficulté, il y en a toujours, et malheureusement il y en aura probablement toujours. Ces difficultés, on a fait des efforts pour mieux les recenser aujourd'hui. On a fait beaucoup d'efforts pour, comme on dit, désenclaver les quartiers de la politique de la ville. Des efforts dans le domaine des handicaps physiques pour toute l'affaire des planchers bas, des tramways accessibles, des bus accessibles, des ascenseurs dans le métro et compagnie. Il y a des efforts, alors là je dois dire beaucoup plus dispersés, plutôt à l'initiative d'associations, pour des gens en situation de précarité. On s'aperçoit quand même souvent que les situations de précarité sont aussi des situations de mobilité très difficiles, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas bien se repérer dans l'espace, et puis toutes les questions d'accessibilité économique des modes. Il y a des choses qui sont encore très mal reconnues. On a, je dirais, en permanence pratiquement 4 millions de personnes en dépression en France. Et là-dessus, on sait très peu de choses, mais on se doute bien que la dépression n'est pas une incitation à sortir et peut priver des gens. Et puis, il y a la contrainte économique, dont on parle peut-être un petit peu pas mal aujourd'hui avec les questions de carburant, mais on a une partie de la population. Je dis bien une partie, une partie de la population périurbaine ou rurale qui est dépendante de l'automobile. Alors ça, c'est en général à peu près toutes ces populations-là. Mais à qui ça pose problème ? Ça, ce n'est qu'une partie. C'est les gens qui sont avec de faibles ressources et pour qui toutes les hausses de prix, notamment dans le domaine des carburants, vont être un sujet sensible. Alors je voudrais juste rappeler à ce stade-là que leur difficulté principale n'est pas nécessairement le prix du carburant. Leur difficulté principale, c'est souvent que quand ils ont une vieille voiture qui tombe en panne, ils n'ont pas l'argent pour la réparer, des choses comme ça. Donc oui, des personnes en difficulté de mobilité, il y en a. De mon point de vue, il y en aura toujours. Ce qui est peut-être le plus important, c'est de trouver les dispositifs pour les aider et à ce que ça ne soit pas une situation qui s'installe. Qu'on ait en quelque sorte un peu de coaching de mobilité, comme il y a du coaching dans d'autres domaines.
Justement, est-ce qu'il est possible de concilier un peu cet objectif de droit à la mobilité pour tous et les objectifs de développement durable, comme on voit les tensions actuelles autour du prix des carburants ? Et est-ce qu'il y a des innovations technologiques comme le véhicule autonome ou d'autres innovations qui permettraient peut-être de concilier ces deux objectifs dans le futur ?
Alors, je crois qu'il faut rappeler, basiquement, que le développement durable, c'était une espèce de conciliation entre les enjeux de développement économique, des enjeux d'équité sociale, équité intergénérationnelle, et puis des enjeux environnementaux. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de développement durable, on a plutôt tendance à surpondérer le côté environnemental et à oublier un petit peu le côté inclusion sociale, notamment. Alors, des innovations pour pallier les difficultés de mobilité, elles peuvent être organisationnelles, elles peuvent être technologiques. C'est vrai que le véhicule autonome est aujourd'hui sur l'agenda et que, en théorie, je dis bien, des systèmes de véhicules autonomes qu'on appelle avec son smartphone et qui arrivent tout seul et compagnie, permettent de résoudre les difficultés de mobilité de gens qui n'auraient pas le permis, qui sont trop jeunes, qui sont trop vieux, qui. Je crois que c'est sur le papier, c'est vrai. Ça sera peut-être vrai dans 50 ans. En attendant, on n'y est pas. On y sera vraisemblablement pour ce qu'on appelle des véhicules de niveau 4, je simplifie, mais qui peuvent opérer dans quelques contextes bien précis et pas dans tous les contextes. Et donc, je crois que c'est... En attendant, il y a du boulot à faire avec des choses peut-être un petit peu plus simples et moins technologiques qu'aujourd'hui. J'ai parler du vélo électrique, ça c'est des solutions individuelles qui peuvent être utiles dans certains contextes. Ce que vous observez aussi, c'est dans les milieux, notamment en milieu rural, alors il y a très peu de gens en milieu rural, d'adultes qui n'ont pas le permis, mais quand vous regardez leur mobilité, elle est quand même dominée par la voiture. Alors, le mystère de tout ça, c'est de l'entraide. De l'entraide, du covoiturage, des choses comme ça. Je crois qu'on n'a pas poussé, on n'a pas trouvé de modèle économique pour ça. Mais il n'y a pas que l'économie dans la vie. Il y a aussi des solidarités de voisinage, il y a de l'animation sociale, il y a des choses comme ça. Et donc, je pense qu'on a à portée de main des moyens alors qu'on n'utilise pas nécessairement. On ne pense pas tous les jours en se levant le matin ou en se rasant le matin à la façon dont on va se déplacer ou dont d'autres peuvent avoir des problèmes de déplacement. Mais je dirais, ce qui me semble à peu près évident, c'est que l'éventail des moyens pour combattre ces problèmes-là a augmenté. Alors après, qu'on les mette en œuvre ou pas, ça c'est une autre affaire.
Merci beaucoup.